La jeune princesse Kitty Tcherbatsky avait 18 ans. Elle paraissait pour la première fois dans le monde cet hiver, et ses succès y étaient plus grands que ceux de ses aînés, plus grands que sa mère elle-même ne s'y était attendue. Sans parler de toute la jeunesse dansante de Moscou qui était plus ou moins éprise de Kitty, ils s'étaient, dès ce premier hiver, présenté deux partis très sérieux, Lévin et, aussitôt après son départ, le comte Vronsky. Les visites fréquentes de Lévin et son amour évident pour Kitty avaient été le sujet des premières conversations sérieuses entre le prince et la princesse sur l'avenir de leur fille cadette, conversations qui dégénéraient souvent en discussions très vives. Le prince tenait pour Lévin et disait qu'il ne souhaitait pas de meilleur parti pour Kitty. La princesse, avec l'habitude particulière aux femmes de tourner la question, répondait que Kitty était bien jeune, qu'elle ne montrait pas grande inclination pour Lévin, que d'ailleurs celui-ci ne semblait pas avoir d'intention sérieuse. Mais ce n'était pas là le fond de sa pensée. Ce qu'elle ne disait pas, c'est qu'elle espérait un parti plus brillant, que Lévin ne lui était pas sympathique et qu'elle ne le comprenait pas. Aussi fut-elle ravie lorsqu'il partit inopinément pour la campagne. « Tu vois que j'avais raison, » dit-elle d'un air triomphant à son mari. Elle fut encore plus enchantée lorsque Vronsky se mit sur les rangs et son espoir de marier Kitty non seulement bien mais brillamment ne fit que se confirmer. Pour la princesse, il n'y avait pas de comparaison à établir entre les deux prétendants. Ce qui lui déplaisait en Lévin était sa façon brusque et bizarre de juger les choses, sa gaucherie dans le monde qu'elle attribuait à de l'orgueil, et ce qu'elle appelait sa vie de sauvage à la campagne, absorbée par son bétail et ses paysans. Ce qui lui déplaisait plus encore était que Lévin, amoureux de Kitty, eut fréquenté leur maison pendant 6 semaines, de l'air d'un homme qui hésiterait, observerait et se demanderait si, en se déclarant, l'honneur qu'il leur ferait ne serait pas trop grand. Ne comprenait-il donc pas qu'on ait tenu d'expliquer ses intentions lorsqu'on vient assidûment dans une maison où il y a une jeune fille à marier, et puis se départ soudain, sans avertir personne? Oh, il est heureux, pensait-elle, qu'il soit si peu attrayant et que Kitty ne se soit pas monté la tête. Vronsky, par contre, comblait tous ses vœux. Il était riche, intelligent, d'une grande famille, une carrière brillante à la cour ou à l'armée s'ouvrait devant lui, et en outre, il était charmant. Que pouvait-on rêver de mieux? Il faisait la cour à Kitty au bal, dansait avec elle, s'était fait présenter à ses parents. Pouvait-on douter de ses intentions? Et cependant, la pauvre mère passait un hiver cruellement agité. La princesse, lorsqu'elle s'était mariée il y avait quelque 30 ans, avait vu son mariage arrangé par l'entremise d'une tante. Le fiancé, qu'on connaissait d'avance, était venu pour la voir et se faire voir. L'entrevue avait été favorable, et la tante qui faisait le mariage avait de part et d'autre rendu compte de l'impression produite. On était venu ensuite au jour indiqué faire connaître aux parents une demande officielle qui avait été agréée, et tout s'était passé simplement et naturellement. Au moins, c'est ainsi que la princesse se rappelait les choses à distance. Mais lorsqu'il s'était agi de marier ses filles, elle avait appris par expérience combien cette affaire, si simple en apparence, était en réalité difficile et compliquée. Que d'anxiété, que de soucis, que d'argent dépensé, que de lutte avec son mari lorsqu'il avait fallu marier Dolly et Nathalie. Maintenant, il fallait repasser par les mêmes inquiétudes et par des querelles aussi pénibles encore. Le vieux prince, comme tous les pères en général, était pointilleux à l'excès en tout ce qui touchait à l'honneur et à la pureté de ses filles. Il en était jaloux, surtout de Kitty, sa favorite. À chaque instant, il faisait des scènes à la princesse et l'accusait de compromettre sa fille. La princesse avait pris l'habitude de ces scènes du temps de ses filles aînées, mais elle savait actuellement que la susceptibilité exagérée de son mari avait sa raison d'être. Bien des choses étaient changées dans les usages de la société, et les devoirs d'une mère devenaient de jour en jour plus difficiles. Les contemporaines de Kitty se réunissaient librement entre elles, suivaient des cours, prenaient des manières dégagées avec les hommes, se promenaient seules en voiture. Beaucoup d'entre elles ne faisaient plus de révérences, et ce qu'il y avait de plus grave, chacune d'elles était fermement convaincue que l'affaire de choisir un mari lui incombait à elle seule, et pas du tout à ses parents. On ne se marie plus comme autrefois, pensaient et disaient toutes ces jeunes filles et même les vieilles gens. Mais comment se marie-t-on alors maintenant? C'est ce que la princesse n'arrivait à apprendre de personne. L'usage français qui donne aux parents le droit de décider du sort de leurs enfants n'était pas accepté. Il était même vivement critiqué. L'usage anglais, qui laisse pleine liberté aux jeunes filles, n'était pas admissible. L'usage russe de marier par un intermédiaire était considéré comme un reste de barbarie. Chacun plaisantait, la princesse comme les autres. Mais comment s'y prendre pour bien faire? Personne n'en savait rien. Tous ceux avec lesquels la princesse en avait causé répondaient de même « Oh, il est grand temps de renoncer à ces vieilles idées. Ce sont les jeunes gens qui épousent et non les parents. C'est donc à eux de savoir s'arranger comme ils l'entendent. » Raisonnement bien commode pour ceux qui n'avaient pas de filles. La princesse comprenait qu'en permettant à Kitty la société des jeunes gens, elle courait le risque de la voir s'éprendre de quelqu'un dont eux, ses parents, ne voudraient pas et qui ne ferait pas un bon mari ou qui ne songerait pas à l'épouser. On avait donc beau dire, la princesse ne trouvait pas plus sage de laisser les jeunes gens se marier tout seuls à leur fantaisie que de donner des pistolets chargés en guise de joujoux à des enfants de 5 ans. C'est pourquoi Kitty la préoccupait plus encore que ses sœurs. En ce moment, elle craignait surtout que Vronsky ne se bornât à faire l'aimable. Kitty était éprise, elle le voyait, et ne se rassurait qu'en pensant que Vronsky était un galant homme. Mais pouvait-elle se dissimuler qu'avec la liberté de relations nouvellement admise dans la société, il était bien facile de tourner la tête à une jeune fille, sans que ce genre de délit inspirât le moindre scrupule à un homme du monde? La semaine précédente, Kitty avait raconté à sa mère une de ses conversations avec Vronsky pendant un cotillon, et cette conversation sembla rassurante à la princesse sans la tranquilliser complètement. Vronsky avait dit à sa danseuse que son frère et lui étaient si habitués à se soumettre en tout à leur mère qu'ils n'entreprenaient jamais rien d'important sans la consulter. Et en ce moment, avait-il ajouté, « J'attends l'arrivée de ma mère comme un bonheur particulièrement grand. » Kitty rapporta ces mots sans y attacher aucune importance spéciale, mais sa mère leur donna un sens conforme à son désir. Elle savait qu'on attendait la vieille comtesse et qu'elle serait satisfaite du choix de son fils, mais alors pourquoi semblait craindre de l'offenser en se déclarant avant son arrivée? Malgré ces contradictions, la princesse interpréta favorablement ses paroles, tant elle avait besoin de sortir d'inquiétude. Quelque amer que lui fût le malheur de sa fille aînée Dolly, qui songeait à quitter son mari, elle se laissait absorber entièrement par ses préoccupations au sujet du sort de la cadette qu'elle voyait prête à se décider. L'arrivée de Lévin augmenta son trouble. Elle craignit que Kitty, par un excès de délicatesse, ne refusât Vronsky en souvenir du sentiment qu'elle avait eu un moment éprouvé pour Lévin. Ce retour lui semblait devoir tout embrouiller et reculer un dénouement tant désiré. « Est-il arrivé depuis longtemps ?» demanda-t-elle à sa fille en rentrant. « Oh, il est arrivé aujourd'hui, maman. » « Il y a une chose que je veux te dire, » commença la princesse. Et, à l'air sérieux et agité de son visage, Kitty devina de quoi il s'agissait. « Maman, » dit-elle en rougissant et en se tournant vivement vers elle, « ne dites rien, je vous en prie, je sais tout. » Elle partageait les idées de sa mère, mais les motifs qui déterminaient le désir de celle-ci la froissaient. « Je veux dire seulement qu'ayant encouragé... »« Maman, ma chérie, au nom de Dieu, ne dites rien, j'ai peur d'en parler. »« Je ne dirai rien, » répondit la mère en lui voyant des larmes dans les yeux. « Un mot seulement, ma petite âme. Tu m'as promis de n'avoir pas de secret pour moi. » « Mais jamais, jamais aucun !» s'écria Kitty, en regardant sa mère bien en face, tout en rougissant. « Je n'ai rien à dire maintenant, je ne saurais rien dire, même si je le voulais, je le suis. »« Non, mais avec ces yeux-là, elle ne saurait mentir !» pensa la mère, souriant de cette émotion, tout en songeant à ce qu'avait d'important pour la pauvrette, ce qui se passait dans son cœur. Kitty éprouva après le dîner et au commencement de la soirée une impression analogue à celle que ressent un jeune homme la veille d'une première affaire. Son cœur battait violemment, elle était incapable de rassembler et de fixer ses idées. Cette soirée où il se rencontrerait pour la première fois déciderait de son sort. Elle le pressentait et son imagination les lui représentait tantôt ensemble, tantôt séparément. En songeant au passé, c'est avec plaisir, presque avec tendresse, qu'elle s'arrêtait aux souvenirs qui se rapportaient à Lévin. Tout leur donnait un charme poétique. L'amitié qu'il avait eue pour ce frère qu'elle avait perdu, leur relation d'enfance, elle trouvait doux de penser à lui et de se dire qu'il l'aimait, car elle ne doutait pas de son amour et en était fière. Elle éprouvait au contraire un certain malaise en pensant à Vronsky et sentait dans leur rapport quelque chose de faux dont elle s'accusait, car il avait au suprême degré le charme, le calme et le sang-froid d'un homme du monde et restait toujours également aimable et naturel. Tout était clair et simple dans ses rapports avec Lévin, mais... si Vronsky lui ouvrait des perspectives éblouissantes et un avenir brillant, l'avenir avec Lévin restait enveloppé d'un brouillard. Après le dîner, Kitty remonta dans sa chambre pour faire sa toilette du soir. Debout devant son miroir, elle constata qu'elle était en beauté et, chose importante ce jour-là, qu'elle disposait de toutes ses forces, car elle se sentait en paix et en pleine possession d'elle-même. Comme elle descendait au salon vers 7h30, un domestique annonça « Konstantin Dmitrievitch Lévin ». La princesse était encore dans sa chambre, le prince n'était pas là. « C'est cela !» pensa Kitty, et tout son sang afflua à son cœur. En passant devant un miroir, elle fut effrayée de sa pâleur. Elle savait maintenant, à n'en plus douter, qu'il était venu de bonne heure pour la trouver seule et se déclarer. Et aussitôt, la situation lui apparut pour la première fois sous un nouveau jour. Il ne s'agissait plus d'elle seule, ni de savoir avec qui elle serait heureuse et à qui elle donnerait la préférence. Elle comprit qu'il faudrait tout à l'heure blesser un homme qu'elle aimait et le blesser cruellement. Pourquoi ? Parce que le pauvre garçon était amoureux d'elle. Mais elle n'y pouvait rien, cela devait être ainsi. « Mon Dieu, est-il possible que je doive lui parler moi-même » pensa-t-elle. « que je doive lui dire que je ne l'aime pas. Ce n'est pas vrai. Que lui dire alors que j'en aime un autre? C'est impossible. Je me sauverai, je me sauverai. Elle s'approchait déjà de la porte lorsqu'elle entendit son pas. Non, 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 ce n'est pas loyal. De quoi ai-je peur? Je n'ai fait aucun mal. Ah, il en adviendra ce qui pourra, je dirai la vérité. Avec lui, rien ne peut me mettre mal à l'aise. Le voilà, se dit-elle en le voyant paraître, grand, fort et cependant timide, avec ses yeux brillants fixés sur elle. Elle le regarda bien en face d'un air qui semblait implorer sa protection et lui tendit la main. « Oh, je suis venu un peu tôt, il me semble, » dit-il en jetant un coup d'œil sur le salon vide. Et, sentant que son attente n'était pas trompée, que rien ne l'empêcherait de parler, sa figure s'assombrit. « Oh non !» répondit Kitty en s'asseyant près de la table. Ah, « c'est précisément ce que je souhaitais, afin de vous trouver seul. » commença-t-il sans s'asseoir et sans la regarder pour ne pas perdre son courage. « Oh, maman viendra à l'instant. Elle s'est beaucoup fatiguée hier. Hier... » Elle parlait sans se rendre compte de ce qu'elle disait et ne le quittait pas de son regard, suppliant et caressant. Lévin se tourna vers elle, ce qui la fit rougir et se taire. « Je vous ai dit hier que... « je ne savais pas si j'étais ici pour longtemps, que cela dépendait de vous. » Kitty baissait la tête de plus en plus, ne sachant pas elle-même ce qu'elle répondrait à ce qu'il allait dire. « Oui, que cela dépendait de vous, » répéta-t-il. « Je voulais dire, c'est pour cela que je suis venu que... Serez-vous ma femme ?» murmura-t-il sans savoir ce qu'il disait, mais avec le sentiment d'avoir fait le plus difficile. Il s'arrêta ensuite et la regarda. Kitty ne relevait pas la tête. Elle respirait avec peine et le bonheur remplissait son cœur. Jamais elle n'aurait cru que l'aveu de cet amour lui causerait une impression aussi vive. Mais cette impression ne dura qu'un instant. Elle se souvint de Vronsky, et levant son regard sincère et limpide sur Lévin, dont elle vit l'air désespéré, elle répondit avec hâte « Non, cela ne peut être. Pardonnez-moi. » Combien, une minute auparavant, elle était près de lui et nécessaire à sa vie, et combien elle s'éloignait tout à coup et lui devenait étrangère. Il ne pouvait en être autrement, dit-il, sans la regarder. Et, la saluant, il voulut s'éloigner. La princesse entra au même instant. La terreur se peignit sur son visage en les voyant seuls, avec des figures bouleversées. Lévin s'inclina devant elle sans parler. Kitty se taisait sans lever les yeux. « Dieu merci, elle aura refusé, » pensa la mère, et le sourire avec lequel elle accueillait ses invités du jeudi reparut sur ses lèvres. Elle s'assit et questionna Lévin sur sa vie de campagne. Il s'assit aussi, espérant s'esquiver lorsque d'autres personnes entreraient. 5 minutes après, on annonça une amie de Kitty, mariée depuis l'hiver précédent, la comtesse Nordstone. C'était une femme sèche, jaune, nerveuse et maladive, avec de grands yeux noirs brillants. Elle aimait Kitty, et son affection, comme celle de toute femme mariée pour une jeune fille, se traduisait par un vif désir de la marier d'après ses idées de bonheur conjugal. C'était à Vronsky qu'elle voulait la marier. Lévin, qu'elle avait souvent rencontré chez les Tcherbatsky au commencement de l'hiver, lui avait toujours déplu, et son occupation favorite, quand elle le voyait, était de le taquiner. J'aime assez qu'il me regarde du haut de sa grandeur, qu'il ne m'honore pas de ses conversations savantes, parce que je suis trop bête pour qu'il condescende jusqu'à moi. Je suis enchantée qu'il ne puisse pas me souffrir, disait-elle en parlant de lui. Elle avait raison en ce sens que Lévin ne pouvait effectivement pas la souffrir et mépriser en elle ce dont elle se glorifiait, le considérant comme une qualité. Sa nervosité, son indifférence et son dédain raffiné pour tout ce qu'elle jugeait matériel et grossier. Entre Lévin et la comtesse Norston, il s'établit donc ce genre de relation qu'on rencontre assez souvent dans le monde, qui fait que deux personnes amies en apparence se dédaignent au fond à tel point qu'elles ne peuvent même plus être froissées l'une par l'autre. La comtesse entreprit Lévin aussitôt. « Ah, Constantin Dimitritch, voilà revenu dans votre abominable Babylone, » dit-elle en tendant sa petite main sèche et en lui rappelant qu'il avait au commencement de l'hiver appelé Moscou une Babylone. « Est-ce Babylone qui se convertit ou vous, qui vous êtes corrompu ?» ajouta-t-elle en regardant du côté de Kitty avec un sourire moqueur. Je suis flattée, comtesse, de voir que vous teniez un compte aussi exact de mes paroles, répondit Lévin, qui, ayant eu le temps de se remettre, rentra aussitôt dans le ton aigre-doux propre à ses rapports avec la comtesse. Il faut croire que je vous impressionne vivement. Comment donc, mais j'en prends note. Eh bien, Kitty, tu as encore patiné aujourd'hui? Et elle se mit à causer avec sa jeune amie. Quoiqu'il ne fût guère convenable de s'en aller à ce moment, Lévin eût préféré cette gaucherie au supplice de rester toute la soirée et de voir Kitty l'observer à la dérobée tout en évitant son regard. Il essaya donc de se lever, mais la princesse s'en aperçut et se tournant vers lui. « Comtez-vous rester longtemps à Moscou ? » dit-elle. « N'êtes-vous pas juge de paix dans votre district ? Cela ne vous impose de vous absenter longtemps. Oh non, non, princesse, j'ai renoncé à ces fonctions, je suis venu pour quelques jours. Il s'est passé quelque chose, pensa la comtesse Norston en examinant le visage sévère et sérieux de Lévin. Il ne se lance pas dans ses discours habituels. Oh, mais j'arriverai bien à le faire parler. Rien ne m'amuse comme de le rendre ridicule devant Kitty. Constantin Dimitritch, lui dit-elle, vous qui savez tout, expliquez-moi de grâce comment il se fait que dans notre terre de Galouga, les paysans et leurs femmes boivent tout ce qu'ils possèdent et refusent de payer leurs redevances. Vous qui faites toujours l'éloge des paysans, expliquez-moi ce que cela signifie. En ce moment, une dame entra au salon et Lévin se leva. Excusez-moi, comtesse, mais je ne sais rien, ne puis-vous répondre, dit-il en regardant un officier qui entrait à la suite de la dame. Ce doit être Vronsky, pensa-t-il. Et pour s'en assurer, il jeta un coup d'œil sur Kitty. Celle-ci avait déjà eu le temps d'apercevoir Vronsky et d'observer Lévin. À la vue des yeux lumineux de la jeune fille, Lévin comprit qu'elle aimait, et le comprit aussi clairement que si elle le lui eût avoué lui-même. Mais quel était cet homme qu'elle aimait? Il voulut s'en rendre compte et sentit qu'il devait rester, bon gré, mal gré. Bien des gens en présence d'un rival heureux sont disposés à nier ses qualités pour ne voir que ses travers. D'autres, au contraire, ne songent qu'à découvrir les mérites qui lui ont valu le succès et, le cœur ulcéré, ne lui trouvent que des qualités. Lévin était de ce nombre. Et il ne lui fut pas difficile de découvrir ce que Vronsky avait d'attrayant et d'aimable. Cela sautait aux yeux. Brun, de taille moyenne et bien proportionné, un beau visage calme et bienveillant, tout dans sa personne, depuis ses cheveux noirs coupés très courts et son menton rasé de frais jusqu'à son uniforme, était simple et parfaitement élégant. Vronski laissa passer la dame qui entrait en même temps que lui, puis s'approcha de la princesse et enfin de Kitty. Il sembla aller vite qu'en venant près de celle-ci, ses yeux prenaient une expression de tendresse et son sourire une expression de bonheur et de triomphe. Il lui tendit une main un peu large mais petite et s'inclina respectueusement. Après avoir salué chacune des personnes présentes et échangé quelques mots avec elles, il s'assit sans avoir jeté un regard sur Lévine, qui ne le quittait pas des yeux. Permettez-moi, messieurs, de vous présenter l'un à l'autre, dit la princesse en indiquant du geste Lévine, Konstantin Dmitritch Lévine, le comte Alexis Krylovitch Vronski. Vronski se leva et alla serrer amicalement la main de Lévine. Oh, je devais, à ce qu'il me semble, dîner avec vous cet hiver, lui dit-il avec un sourire franc et ouvert, mais vous êtes parti inopinément pour la campagne. Oh, Constantin Dmitritch, méprise et fuit la ville et ses habitants, dit la comtesse. Oh, je suppose que mes paroles vous impressionnent vivement, puisque vous vous en souvenez si bien, dit Lévine. Et s'apercevant qu'il se répétait, il rougit. Vronski regarda Lévine et la comtesse et sourit. Alors, vous habitez toujours la campagne? Demanda-t-il. Oh, ça doit être triste en hiver. Oh, pas quand il y a de l'occupation, d'ailleurs, on ne s'ennuie pas tout seul, répondit Lévine d'un ton bourru. J'aime la campagne, dit Vronski, en remarquant le ton de Lévine sans le laisser paraître. Mais vous ne consentiriez pas à y vivre toujours, j'espère, demanda la comtesse. Je n'en sais rien. Je n'y ai jamais fait de séjour prolongé. Mais j'ai éprouvé un sentiment singulier, ajouta-t-il. Jamais je n'ai tant regretté la campagne, la vraie campagne russe, avec ses moujiks, que pendant l'hiver que je passais à Nice avec ma mère. Vous savez que Nice est triste par elle-même. Naples et Sorrente, au reste, ne doivent pas non plus être pris à haute dose. C'est là qu'on se rappelle le plus vivement la Russie, et surtout la campagne, on dirait que. Alors il parlait, tantôt à Kitty, tantôt à Lévine, portant son regard calme et bienveillant de l'un à l'autre et disant ce qui lui passait par la tête. La comtesse Nordston ayant voulu placer son mot, il s'arrêta sans achever sa phrase et l'écouta avec attention. La conversation ne languit pas un instant, si bien que la vieille princesse n'eut aucun besoin de faire avancer ses grosses pièces, le service obligatoire et l'éducation classique qu'elle tenait en réserve pour le cas de silence prolongé. La comtesse ne trouva même pas l'occasion de taquiner Lévine. Celui-ci voulait se mêler à la conversation générale et ne le pouvait pas. Il se disait à chaque instant, maintenant je puis partir, et cependant il restait comme s'il eût attendu quelque chose. On parla de table tournante et d'esprit frappeur, et la comtesse, qui croyait au spiritisme, se mit à raconter les merveilles dont elle avait été témoin. Oh, comtesse, au nom du ciel, faites-moi voir cela. Jamais je ne suis parvenu à rien voir d'extraordinaire, quelque bonne volonté que j'y mette, dit en souriant Vronski. Ah, fort bien, ce sera pour samedi prochain, répondit la comtesse. Mais vous, Constantin Dmitritch, y croyez-vous? Demanda-t-elle à Lévine. Pourquoi me demandez-vous cela? Vous savez bien ce que j'y répondrai. Parce que je voulais entendre votre opinion. Mon opinion, répondit Lévin, est que les tables tournantes nous prouvent combien la bonne société est peu avancée, guère plus que ne le sont nos paysans. Ceux-ci croient au mauvais œil, au sort, aux métamorphoses, et nous. Alors vous n'y croyez pas. Oh non, je ne puis y croire, comtesse. Mais si je vous dis ce que j'ai vu moi-même. Oh, les paysannes aussi disent avoir vu le Damavoï, un démon familier. Alors vous croyez que je ne dis pas la vérité? Elle se mit à rire également. Mais non, Marie, Constantin Dimitritch dit simplement qu'il ne croit pas au spiritisme, interrompit Kitty en rougissant pour Lévin. Celui-ci comprit son intention et allait répondre sur un ton plus vexé encore, lorsque Vronsky vint à la rescousse et, avec son sourire aimable, fit rentrer la conversation dans les bornes d'une politesse qui menaçait de disparaître. Vous n'en admettez pas du tout la possibilité, demanda-t-il. Pourquoi? Nous admettons bien l'existence de l'électricité, que nous ne comprenons pas davantage. Pourquoi n'existerait-il pas une force nouvelle, encore inconnue, qui. Ah, quand l'électricité a été découverte, interrompit Lévin avec vivacité, on n'en a vu que les phénomènes, sans savoir ce qui les produisait, ni d'où ils provenaient. Des siècles se sont passés avant qu'on songeât à en faire l'application. Les spirites, au contraire, ont débuté par faire écrire les tables et évoquer les esprits, et ce n'est que plus tard qu'il a été question d'une force inconnue. Vronsky écoutait attentivement, comme il le faisait toujours, et semblait s'intéresser à ses paroles. Oui, mais les spirites disent, nous ignorons encore ce que c'est que cette force, tout en constatant qu'elle existe et agit dans des conditions déterminées. Aux savants maintenant à découvrir en quoi elle consiste. Pourquoi n'existerait-il pas effectivement une force nouvelle si. Ah, parce que, reprit encore Lévin en interrompant, toutes les fois que vous frotterez de la laine avec de la résine, vous produirez en électricité un effet certain et connu, tandis que le spiritisme n'amène aucun résultat certain, par conséquent, ces effets ne seraient passés pour des phénomènes naturels. Vronsky, sentant que la conversation prenait un caractère trop sérieux pour un salon, ne répondit pas, et afin d'en changer la tournure, dit en souriant gaiement aux dames. Et pourquoi ne ferions-nous pas tout de suite un essai, comtesse? Mais Lévin voulait aller jusqu'au bout de sa démonstration. La tentative que font les spirites pour expliquer leur miracle par une force nouvelle ne peut selon moi réussir. Ils prétendent à une force surnaturelle et veulent la soumettre à une épreuve matérielle. Chacun attendait qu'il cessât de parler, il le sentit. Et moi, je crois que vous seriez un médium excellent, dit la comtesse. Vous avez quelque chose de si enthousiaste. Lévin ouvrit la bouche pour répondre, mais ne dit rien et rougit. Voyons, mesdames, mettons les tables à l'épreuve, dit Vronsky. Vous permettez, princesse? Et Vronsky se leva, cherchant les yeux une table. Kitty se leva aussi, et ses yeux rencontrèrent ceux de Lévin. Elle le plaignait d'autant plus qu'elle se sentait la cause de sa douleur. Pardonnez-moi, si vous pouvez pardonner, disait son regard, je suis si heureuse. Je hais le monde entier, vous autant que moi, répondait le regard de Lénine, et il chercha son chapeau. Mais le sort lui fit encore une fois contraire. À peine s'installait-on autour des tables et se disposait-il à sortir, que le vieux prince entra, et après avoir salué les dames, il s'empara de Lévine. « Oh ! S'écria-t-il avec joie, je ne te savais pas ici. Depuis quand ? Très heureux de vous voir !» Le prince disait à Lévine « Tantôt toi, tantôt vous ». Il le prit par le bras et ne fit aucune attention à Vronsky, debout derrière Lévine, attendant tranquillement pour saluer que le prince l'aperçut. Kitty sentit que l'amitié de son père devait sembler dure à Lévine après ce qui s'était passé. Elle remarqua aussi que le vieux prince répondait froidement au salut de Vronsky. Celui-ci, surpris de cet accueil gracial, avait l'air de se demander avec un étonnement, de bonne humeur, pourquoi on pouvait bien ne pas être amicalement disposé en sa faveur. « Prince, rendez-vous, Constantin Dimitrich, dit la comtesse, nous voulons faire un essai. »«
Quel essai ? Celui de faire tourner les tables.
Eh bien, vous m'excuserez, messieurs et dames, mais selon moi, le furet serait plus amusant, » dit le prince en regardant Vronsky, qu'il devina être l'auteur de cet amusement. « Du moins, le furet a quelque bon sens. »
Vronsky leva tranquillement un regard étonné sur le vieux prince et se tourna en souriant légèrement vers la comtesse Nordston. Ils se mirent à parler d'un bal qui se donnait la semaine suivante.
« J'espère que vous y serez, » dit-il en s'adressant à Kitty. Aussitôt que le vieux prince l'eut quitté, Lévine s'esquiva, et la dernière impression qu'il emporta de cette soirée fut le visage souriant et heureux de Kitty, répondant à Vronsky au sujet du bal. Le soir même, Kitty raconta à sa mère ce qui s'était passé entre elle et Lévine. Malgré le chagrin qu'elle éprouvait de l'avoir peiné, elle se sentait flattée d'avoir été demandée en mariage. Mais, tout en ayant la conviction d'avoir bien agi, elle resta longtemps sans pouvoir s'endormir. Un souvenir l'impressionnait, puis particulièrement c'était celui de Lévine, debout auprès du vieux prince, fixant sur elle et sur Vronsky un regard sombre et désolé. Des larmes lui en vinrent aux yeux. Mais, songeant aussitôt à celui qui le remplaçait, elle se représenta vivement son beau visage mâle et ferme, son calme plein de distinction, son air de bienveillance. Elle se rappela l'amour qu'il lui témoignait, et la joie rentra dans son âme. Elle remit la tête sur l'oreiller en souriant à son bonheur. « C'est triste, triste, mais je n'y peux rien. Ce n'est pas ma faute, se disait-elle, quoiqu'une voix intérieure lui répéta le contraire. Devait-elle se reprocher d'avoir attiré Lévine ou de l'avoir refusé ? Elle n'en savait rien. Ce qu'elle savait, c'est que son bonheur n'était pas sans mélange. Seigneur, ayez pitié de moi. Seigneur, ayez pitié de moi, pria-t-elle jusqu'à ce qu'elle s'endormît. Pendant ce temps, il se passait dans le cabinet du prince une de ces scènes qui se renouvelaient fréquemment entre les époux, au sujet de leur fille préférée.
Voilà ce que c'est, voilà ce que c'est, criait le prince en levant les bras en l'air, malgré les préoccupations que lui causaient les pans flottants de sa robe de chambre fourrée. Vous n'avez ni fierté ni dignité. Vous perdez votre fille avec cette façon basse et ridicule de lui chercher un mari.
Mais au nom du ciel, prince, qu'ai-je donc fait ? Disait la princesse presque en pleurant. Elle était venue trouver son mari pour lui souhaiter le bonsoir, comme d'ordinaire, toute heureuse de sa conversation avec sa fille. Et, sans souffler mot de la demande de Lévine, elle s'était permis une allusion au projet de mariage avec Vronsky qu'elle considérait comme décidé aussitôt après l'arrivée de la comtesse. À ce moment, le prince s'était fâché et l'avait accablé de paroles dures.
« Ce que vous avez fait, d'abord, vous avez attiré un épouseur, ce dont tout Moscou parlera et à bon droit. Si vous voulez donner des soirées, donnez-en, mais invitez tout le monde, et non pas des prétendants de votre choix. Invitez tous ces blancs-becs, c'est ainsi que le prince traitait les jeunes gens de Moscou. Faites venir un tapeur et qu'il danse, mais pour Dieu, n'arrangez pas des entrevues comme ce soir. Cela me dégoûte à voir, et vous en êtes venu à vos fins. Vous avez tourné la tête à la petite. Lévi ne vaut mille fois mieux que ce petit fat de Pétersbourg fait à la machine comme ses pareils. Ils sont tous sur le même patron, et c'est toujours de la drogue. Et quand ce serait un prince du sang, ma fille n'a besoin d'aller chercher personne. Mais en quoi suis-je coupable? Est-ce que... cria le prince avec colère. Je sais bien qu'à t'écouter, interrompit la princesse. Nous ne marierions jamais notre fille. Dans ce cas, autant nous aller à la campagne. Cela vaudrait certainement mieux. Mais écoute-moi, je t'assure que je ne fais aucune avance. Pourquoi donc un homme jeune, beau, amoureux, et qu'elle aussi, voilà ce qu'il vous semble. Et si, en fin de compte, elle s'en éprend, et que lui songe à se marier autant que moi, je voudrais n'avoir pas Dieu pour voir tout cela. Et le spiritisme, et Nice, et le bal. Ici, le prince, s'imaginant imiter sa femme, accompagna chaque mot d'une révérence. Oh, nous serons fiers quand nous aurons fait le malheur de notre petite Catherine et qu'elle se sera fourrée dans la tête. Mais pourquoi penses-tu cela? Je ne pense pas, je sais. C'est pour cela que nous avons des yeux, nous autres, tandis que les femmes n'y voient goutte. Je vois d'une part un homme qui a des intentions sérieuses, c'est Lévine. De l'autre, un bel oiseau comme ce monsieur qui veut simplement s'amuser. Bon, voilà bien des idées à toi. Tu te les rappelleras, mais trop tard, comme avec Dashinka. Bon, allons, c'est bon, n'en parlons plus, dit la princesse, que le souvenir de la pauvre Dolly arrêta net. Tant mieux, et bonsoir. Les époux s'embrassèrent en se faisant mutuellement un signe de croix, selon l'usage, mais chacun garda son opinion, puis ils se retirèrent. La princesse, tout à l'heure si fermement persuadée que le sort de Kitty avait été décidé dans cette soirée, se sentit ébranlée par les paroles de son mari. Rentrée dans sa chambre et songeant avec terreur à cet avenir inconnu, elle fit comme Kitty et répéta bien des fois du fond du cœur « Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. » Vronsky n'avait jamais connu la vie de famille. Sa mère, une femme du monde très brillante dans sa jeunesse, avait eu pendant son mariage et surtout après des aventures romanesques dont tout le monde parla. Il n'avait pas connu son père et son éducation s'était faite au corps des pages. À peine eut-il brillamment terminé ses études en sortant de l'école avec le grade d'officier, qu'il tomba dans le cercle militaire le plus recherché de Pétersbourg. Il fallait bien de temps en haut dans le monde, mais ses intérêts de cœur ne l'y attiraient pas. C'est à Moscou qu'il éprouva pour la première fois le charme de la société familière d'une jeune fille du monde, aimable, naïve et dont il se sentait aimé. Ce contraste avec la vie luxueuse mais grossière de Pétersbourg l'enchanta, et l'idée ne lui vint pas qu'il y eût quelque inconvénient à ses rapports avec Kitty. Au bal, il l'invitait de préférence, allait chez ses parents, causait avec elle comme on cause dans le monde, bagatelle. Tout ce qu'il lui disait aurait pu être entendu de chacun, et cependant il sentait que ces bagatelles prenaient un sens particulier en s'adressant à elle, qu'il s'établissait entre eux un lien qui, de jour en jour, lui devenait plus cher. Loin de croire que cette conduite pût être qualifiée de tentative de séduction sans intention de mariage, il s'imaginait simplement avoir découvert un nouveau plaisir et jouissait de cette découverte. Quel eût été son étonnement d'apprendre qu'il rendrait Kitty malheureuse en ne l'épousant pas. Il n'y aurait pas cru. Comment admettre que ces rapports charmants puissent être dangereux, et surtout qu'il l'obligeasse à se marier? Jamais il n'avait envisagé la possibilité du mariage. Non seulement il ne comprenait pas la vie de famille, mais à son point de vue de célibataire, la famille et particulièrement le mari faisaient partie d'une race étrangère, ennemie et surtout ridicule. Quoique Vronsky n'eût aucun soupçon de la conversation à laquelle il avait donné lieu, il sortit ce soir-là de chez les Cherbatsky avec le sentiment d'avoir rendu le lien mystérieux qu'il attachait à Kitty plus intime encore, si intime qu'il fallait prendre une résolution. Mais laquelle ? Ce qu'il y a de charmant, se disait-il en rentrant tout imprégné d'un sentiment de fraîcheur et de pureté, lequel tenait peut-être à ce qu'il n'avait pas fumé de la soirée, ce qu'il y a de charmant, c'est que, sans prononcer un mot ni l'un ni l'autre, nous nous comprenions aussi parfaitement, dans ce langage muet des regards et des intonations, qu'aujourd'hui, plus clairement que jamais, elle m'a dit qu'elle m'aimait, qu'elle a été aimable, simple, et surtout confiante. Cela me rend meilleur. Je sens qu'il y a un cœur et quelque chose de bon en moi. Oh, ces jolis yeux amoureux! Eh bien, après, rien. Cela me fait plaisir, et à elle aussi. Là-dessus, il réfléchit à la manière dont il pourrait achever sa soirée. Au club, faire un bésigue et prendre du champagne avec Inatine? Non. Au château des fleurs pour trouver Oblomski, des couplets et le cancan? Non, c'est ennuyeux. Voilà précisément ce qui me plaît chez les Cherbatsky, c'est que j'en sors meilleur. Je rentrerai à l'hôtel. Il rentra effectivement dans sa chambre chez Dussault, se fit servir à souper, se déshabilla et eut à peine la tête sur l'oreiller qu'il s'endormit d'un profond sommeil.